Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Shabbat, page 59, Daf Nun Tet. Bonne écoute et bon limoud.
Hoïl de Raouil et Akisho al-Gabé Jerez, puisqu'on peut encore se servir de ces cloches pour les frapper sur un bout de poterie, pour faire du bruit, ce qui est semblable à leur utilisation première. Ça veut dire que quoique les cloches sont partiellement abîmées et qu'elles ne sont pas considérées comme un objet entier qui peut devenir impur, mais elles sont encore assez utilisables pour garder leur impureté précédente et ne pas devenir impur comme tout objet vraiment brisé. Itmar Nami, il a aussi été dit ainsi, Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, Hoil Veraoui la Akisho al Gabe Cheres, Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina a dit que ces cloches gardent leur impureté, puisqu'on peut s'en servir pour les frapper sur un bout de poterie. La troisième réponse de la Gemara est, Rabbi Yochanan Amar, Hoil Veraoui le Gamé Abo Maim le Tinok. Rabbi Yochanan a dit, la raison pour laquelle une cloche qui n'a plus de battant est tout de même considérée comme un objet pas complètement brisé, et puisqu'il a une utilisation possible, c'est de faire boire de l'eau à un bébé, comme un biberon. Quoique c'est une toute nouvelle utilisation pour une cloche, c'est pas du tout semblable à l'utilisation initiale, c'est tout de même suffisant pour que l'objet soit encore considéré comme un objet pas totalement brisé, et garder l'impureté précédente, quoiqu'il ne peut pas devenir impur dorénavant. Voilà pour le Daf Nun Chet.
Shabbat Daf Nun Tet. On reprend Daf Nun Tet Amud Aleph à la quatrième ligne de la page vers la fin de la ligne. Dans le Daf précédent, la Gemara a cité une Tosefta qui parle de certaines cloches qui ne peuvent devenir impures qu'à partir du moment où on leur a fait un battant. Ensuite, il est dit que si le battant a été enlevé, elles gardent leur impureté. La Gemara a demandé comment se fait-il qu'elles gardent leur impureté alors qu'elles ne sont plus utilisables. Elles devraient être considérées comme un objet brisé. Là-dessus, on a vu trois réponses. La deuxième et celle de Rava et de Rabbi Yossi Rabbi Hanina, que la cloche est encore utilisable pour faire du bruit en la tapant sur la poterie, ce qui est semblable à son utilisation initiale. Et la troisième réponse est celle de Rabbi Yochanan, qu'elle est encore utilisable comme un biberon pour faire boire de l'eau à un bébé, quoique ce n'est pas semblable à son utilisation initiale, qui est pour sonner. Là-dessus, la Gemara demande, « V'Rabbi Yochanan lo ba'imen melacha rishona » Et est-ce que Rabbi Yochanan ne nécessite pas qu'un objet ait encore une utilisation semblable à son utilisation initiale pour être encore considéré comme un objet pas complètement brisé? Vehatania, nous avons pourtant appris dans une braïta. Il est dit au sujet du Zav, celui qui a un écoulement maladif et qui est gravement impur, Vechol kli asher yeshev alav vegomer. Et tout objet sur lequel le Zav s'assiera devient impur. Yachol kafa se'a veyashav aleha, j'aurais pu penser que si on a retourné une mesure d'un CA et le ZAV s'est assis dessus, ou alors on a retourné une mesure d'un demi-CA, c'est la valeur de 3 caves, et le ZAV s'est assis dessus, j'aurais pu penser que l'objet devient impur. Talmud Lomar, Asher Yeshev Alav Hazav, c'est pour cela qu'il est dit dans la Torah, sur lequel s'assiera le Zav, c'est dit au futur pour insinuer que c'est en permanence. Mishemiyuchad liyishiva, il s'agit d'un objet qui est fait pour s'asseoir. Yatsaze shomrimlo amod venasem lartenu. La mesure est exclue puisqu'on dit au Zav, lève-toi pour qu'on puisse faire notre travail, c'est-à-dire qu'on tient compte de l'utilisation normale de l'objet et il n'est pas fait pour s'asseoir dessus. Là-dessus, il y a une discussion d'Amoraim. Rabbi Elazar Omer, Bemidrasot Omrim Amod Venasem Lartenu. Rabbi Elazar dit, ce n'est qu'au sujet de la couche ou du siège du Zav qu'on dit, lève-toi pour qu'on puisse faire notre travail, c'est-à-dire qu'on tient compte de son utilisation normale. Alors que ce soit pour devenir impur, comme on a dit, qu'un objet qui n'est pas destiné à être un siège ne devient pas impur, ou que ce soit pour garder l'impureté, si après être devenu impur, le siège ou le tissu qui est fait pour s'asseoir dessus a été partagé en deux, on dit, voyons voir si on peut en faire l'utilisation initiale qui était de s'asseoir dessus. Et puisque ce n'est pas possible, il perd son impureté grave de midras. Ven omrim betameimet amod venasem lartenu. Par contre, on ne dit pas à propos de l'impureté du mort, lève-toi pour qu'on puisse faire notre travail, c'est-à-dire, voyons voir si on peut encore faire le travail initial. même si l'objet a été partagé et qu'on peut l'utiliser pour autre chose, il reste impur, on n'a pas besoin qu'on puisse faire l'utilisation initiale de l'objet. Rabbi Yochanan Amar, Afomer betamemet amod venasem lartenu. Et Rabbi Yochanan dit, aussi à propos de l'impureté du mort, on dit, voyons voir si on peut faire notre travail, c'est-à-dire l'utilisation initiale. C'est seulement si l'utilisation initiale est encore faisable que l'objet reste impur, sinon l'objet est pur, même si on peut faire autre chose. D'après cela, on ne comprend pas comment se fait-il que Rabbi Yochanan a dit que la cloche reste impure, car on peut l'utiliser en tant que biberon pour un bébé, alors que ce n'est pas du tout semblable à l'utilisation initiale qui était de sonner, de faire du bruit avec cette cloche. La Gemara répond, « Ipur kamaita ». Il faut inverser la première discussion dans cette page, c'est-à-dire la discussion qu'il y avait entre Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan. Maintenant, il faut dire que c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina qui a dit que du moment qu'on peut utiliser la cloche en tant que biberon pour un bébé, la cloche reste impure, alors que Rabbi Yochanan a dit que c'est du fait qu'on peut encore taper avec la cloche sur de la poterie et faire du bruit que la cloche reste impure, car c'est semblable à l'utilisation initiale qui est de sonner avec la cloche. La Gemara demande « Umay chazid de afrat kamaita, ipur batraita ?» Comment as-tu choisi d'inverser la première discussion, c'est-à-dire les discussions entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina? Tu devrais plutôt inverser la deuxième discussion de la page, la discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, et dire que c'est Rabbi Yochanan qui dit qu'on ne tient pas compte à propos de l'impureté du mort de l'utilisation initiale de l'objet, alors que c'est Rabbi Elazar qui dit qu'il faut absolument qu'on puisse encore faire l'utilisation initiale de l'objet pour que l'objet garde l'impureté du mort. Comment se fait-il qu'on a plutôt choisi la première discussion à inverser que la deuxième? La Gemara répond « Hashaminanel Rabbi Yochanan de Baimen Melacha Rishona ». C'est parce qu'on a entendu par ailleurs que l'avis de Rabbi Yochanan est qu'il faut que l'utilisation soit semblable à l'utilisation initiale pour les lois d'impureté. Ditnan, car nous avons appris dans une Mishnah de Kelim, Sandal shel behema shel matechet tame. Une chaussure d'animal qui est faite pour protéger l'animal des pierres, si elle est métallique, elle peut devenir impure. Là-dessus, on demande, le maïchazi. À quoi peut-elle servir? Si elle ne sert que l'animal, ce n'est pas un objet qui peut devenir impur. Il y a ici sans doute une autre utilisation qui est aussi pour l'homme, et c'est pour cela que l'objet peut devenir impur. Amar Rav, Raoui Lishtot Bo Maim Bamilchama. Rav a dit, c'est parce qu'on peut se servir de cette chaussure pour boire de l'eau pendant la guerre. C'est donc que d'après Rav, on tient compte d'une autre utilisation que l'utilisation initiale, et en fait d'une utilisation qui n'a aucun rapport avec l'utilisation initiale qui est de porter au pied. Même le fait de boire de l'eau a une importance, et c'est pour cela que l'objet peut devenir impur. Rabbi Hanina Amar, Raoui la Sourbo Shemen Bamilchama, et Rabbi Hanina a dit, c'est parce qu'on peut se servir de cette chaussure pour soindre avec de l'huile pendant la guerre. Rabbi Hanina aussi tient compte d'une utilisation qui n'a aucun rapport avec l'utilisation initiale de la chaussure. Et Rabbi Yochanan Amar, Besha Sheborer Minakrav, et Rabbi Yochanan a dit, c'est parce que lorsque l'homme se sauve du combat, Manicho Beraglav Veratz Al-Kotzin Ve'alabarkanin. Il se sert de cette chaussure pour la porter au pied et courir sur les épines et les chardons. On voit donc que pour Rabbi Yochanan, on ne tient compte que d'une utilisation semblable à l'utilisation initiale. C'est pourquoi on a préféré inverser la première discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina et dire que c'est Rabbi Yochanan qui a répondu que la cloche peut encore faire du bruit sans son battant et c'est pour cela qu'elle reste impure. La Gemara demande « Maïka ben Rav le Rabbi Hanina ». Quelle différence pratique y a-t-il entre la réponse de Rav qui dit que l'utilisation qu'un homme peut faire d'une chaussure d'animal est de boire de l'eau dedans pendant la guerre et la réponse de Rabbi Hanina qui dit que l'utilisation qu'un homme peut en faire, c'est de soindre avec pendant la guerre? Est-ce qu'il y a une différence pratique entre ces deux réponses? La Gemara dit « Ika benayu de maïs ». Il y a une différence pratique entre les deux dans le cas où la chaussure est répugnante. Elle n'est donc pas utilisable pour boire et selon Rav, cette chaussure ne peut pas devenir impure car elle n'a aucune utilisation pour un homme. Rav ne tient pas compte de la possibilité de soindre, car il dit qu'on ne soint pas pendant la guerre. Ben Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, la différence pratique qu'il y a entre la réponse de Rabbi Yochanan qui dit que l'utilisation de la chaussure d'animal pour un homme et qu'il la met lui-même au pied pour s'enfuir du combat, et la réponse de Rabbi Hanina qui dit que l'utilisation est pour soindre pendant la guerre, Ika Benayu de Yakir, il y a une différence pratique entre ces deux réponses, dans le cas où la chaussure est très lourde, et pour Rabbi Yochanan, on ne peut pas s'en servir pour fuir, et c'est pour cela elle ne devient pas impure, alors que pour Rabbi Hanina, du moment qu'on peut s'en servir pour soindre pendant la guerre, même si elle est lourde, elle peut devenir impure. Nous avons vu dans la Mishnah, Velo Beir Shel Zahav, une femme ne peut pas sortir pendant Shabbat avec une broche représentant une ville. Il s'agit d'une broche en or. La Gemara demande, Mai Beir Shel Zahav, que veut dire une broche en or qui représente une ville? Rabba Baba Chana Amar Rabbi Yochanan Yerushalayim de Dahava. Rabba Baba Chana a dit au nom de Rabbi Yochanan, il s'agit d'une broche en or avec des gravures qui représentent Jérusalem.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
On passe à Daf Nun Tet Amud Bet, qui est d'Avadle Rabbi Akiva Ledvitehu, comme Rabbi Akiva a fait fabriquer pour sa femme, car il lui avait promis lorsqu'ils étaient dans la misère que s'il avait de quoi, il lui ferait une broche en or avec les représentations de Jérusalem gravées dessus. Tanu Rabbanan nous avons appris dans une Tosefta. L'otetse isha beir shel zahav, une femme n'a pas le droit de sortir avec une broche qui représente une ville en or pendant Shabbat. Vim yatsta chayevet chatat, divrei Rabbi Meir. Et si elle est sortie avec, elle a l'obligation d'apporter un sacrifice de chatat, c'est-à-dire qu'elle a transgressé une interdiction de Horaïta, c'est la vie de Rabbi Meir. Vachachamim omrim l'otetse vim yatsta ptura. Les Chachamim disent qu'elle n'a pas le droit de sortir avec, mais si elle est sortie, elle est exemptée d'apporter un sacrifice de Khatat, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une interdiction de Rabbanan, mais pas une interdiction de Horaïta. Rabbi Eliezer Omer, Yotza Isha Bir Shel Zahav Lechatrila. Rabbi Eliezer dit, une femme peut délibérément sortir avec une broche en or qui représente Jérusalem, il n'y a donc aucune interdiction d'après Rabbi Eliezer. La Gemara demande, Bemaï Kamifligé. De quoi dépend la discussion des Tanaïm? Rabbi Meir Savar Masoyhu. Rabbi Meir pense que cette broche est considérée comme une charge et c'est pourquoi c'est interdit même de Horaïta. Vrabanan Savre Tarshitu. Alors que les Chachamim pensent que c'est à considérer comme un bijou, c'est pourquoi de Horaïta il n'y a aucune interdiction de sortir avec pendant Shabbat, mais pourtant de Rabbanan c'est interdit. Dilma Shalfa ou Mirveyele Veatia Leatouye, de crainte qu'elle n'enlève la broche pour la montrer et qu'elle n'en vienne à la porter en main dans la rue pendant Shabbat, qui serait une transgression de Horaïta. Rabbi Eliezer Savar, et Rabbi Eliezer pense, Mandarka le Mifak Beir Shel Zav, Isha Chashuva. Qui a l'habitude de sortir dans la rue avec une broche qui représente une ville de Jérusalem en or? Ce n'est qu'une femme importante qui en a les moyens. Vishah Hashuva, l'omishlefa ou mirveya, et une femme importante n'a pas l'habitude d'enlever sa broche, d'enlever ses bijoux pour les montrer. C'est pour cela, comme il n'y a pas cette crainte, c'est permis même de Rabbanan. Klila, est-ce qu'on a le droit de sortir avec un diadème pendant Shabbat? On verra par la suite qu'il y a deux types différents de diadèmes. Alors, Rav Assar, Rav interdit, Ushmuel Shari, et Shmuel autorise. Il va y avoir dans la Gemara deux interprétations de cette discussion. La première interprétation est Dehanisra, un diadème qui est fait d'une plaque de métal précieux, Kule Alma l'opligé de Assur. Tout le monde est d'accord que c'est interdit. C'est-à-dire qu'à la fois Rav et Shmuel disent que si c'est un diadème d'une plaque de métal précieux, puisque c'est un bijou et qu'il y a un risque qu'elle ne l'enlève pour le montrer, c'est interdit. Qui pliguait des Arokta? La discussion entre Rav et Shmuel est à propos d'un diadème qui est fait d'une bande de tissu décorée avec de l'or et des pierres précieuses. Mar Savar Anisra Ikar, Rav pense que l'essentiel est le métal précieux, c'est pourquoi c'est à considérer comme tous les bijoux qui sont interdits. Umar Savar Arokta Ikar, alors que Shmuel pense que l'essentiel est la bande de tissu, et c'est pour cela que c'est permis. Maintenant, on va voir la deuxième interprétation de la Gemara, de la discussion de Rav et Shmuel. Ravashi matni lekula. Ravashi interprète d'une manière indulgente. De arokta de kula alma l'opligé des chari. À propos d'un diadème qui est fait d'une bande de tissu décorée avec de l'or et des pierres précieuses, tout le monde est d'accord que c'est permis, puisque l'essentiel est la bande de tissu, ce n'est pas considéré comme tous les bijoux qu'on craint qu'elle va enlever pour montrer. Qui pligé de anisra? La discussion entre Rav et Shmuel est à propos d'un diadème qui est fait d'une plaque de métal précieux. Man savar dilma shalfa ou merveille va-t-il atouiller? Rav pense que c'est interdit car on craint qu'elle va l'enlever pour montrer et qu'elle va le porter en main dans la rue. Umar savar mandarka le mipak beklila isha chashuva. Et Shmuel pense, puisque qui est-ce qui a l'habitude de sortir avec un diadème? C'est une femme importante. Visha chashuva lo shalfa ou mirveya. Et une femme importante n'a pas l'habitude d'enlever ses bijoux pour les montrer dans la rue. C'est donc pour cela que Shmuel pense que tous les diadèmes sont permis, alors que Rav n'autorise que le diadème qui est fait d'une bande de tissu et pas le diadème qui est fait d'une plaque de métal précieux, d'après cette deuxième interprétation de Ravashi. Amarle Rav Shmuel Barbar Chana le Rav Yosef. Rav Shmuel Barbar Chana a dit à Rav Yosef qu'il avait oublié ses propres enseignements suite à une maladie. Bifiru Shamratlan Mishme de Rav Klila Shari. Tu nous as dit explicitement au nom de Rav qu'on a le droit de sortir avec un diadème pendant Shabbat. Et puisque Rav est celui qui interdit, il faut forcément dire que si Rav a autorisé un certain diadème, c'est comme l'interprétation de Ravashi, que la discussion entre Rav et Shmuel n'est qu'à propos d'un diadème qui est fait d'une plaque de métal précieux, c'est là que Rav a interdit, alors qu'un diadème qui est fait d'une bande de tissu décorée avec de l'or et des pierres précieuses, est autorisé même par Rav. Amroulé le Rav, ata gavra rabba aricha le nerda ou mitla. On a raconté à Rav qu'il y a un homme grand de taille qui est arrivé à Nerda et qui est boiteux. Vedarash klila shari et qui a enseigné qu'on a le droit de sortir avec un diadème pendant Shabbat. Une petite introduction à la remarque suivante de Rav. Dans Ktuvot, la Gemara raconte que Rabbi a dit avant de mourir que Rabbi Hanina bar Chama le remplacerait à la tête de l'école. Finalement, Rabbi Hanina bar Chama a refusé l'offre en faveur de Rabbi Hafes, qui était plus âgé que lui de 2 ans. Comme d'autre part Rabbi Hanina était trop important pour participer à l'étude de Rabbi Hafes, il s'asseyait à l'extérieur et Lévi restait aussi dehors pour lui tenir compagnie et étudier avec lui, alors que lui-même n'avait rien contre participer à l'étude de Rabbi Hafes, comme on verra ici. Alors, lorsqu'on a dit à Rav qu'un sage haut de taille et boiteux est arrivé à Nerda, Amar, Rav a dit, « Man gavra rabba richa de Hitla, qui est le sage qui est à la fois un grand homme et qui est boiteux. Lévi, c'est sans doute Lévi. Shma mina, nach nafshe de Rabbi Hafes, veativ Rabbi Hanina berecha. » On peut déduire du fait que Lévi ait quitté Israël pour venir à Nerda que sans doute Rabbi Hafes est décédé et que Rabbi Hanina s'est installé à la tête de l'école comme Rabbi avait dit. Velo havele inish le Lévi le mitav gabé et Lévi n'a pas avec qui s'asseoir pour étudier et d'autre part il ne s'inclinait pas devant Rabbi Hanina bar Chama qui avait le même âge que lui et qui n'était pas plus grand en Torah. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas participer à l'étude de Rabbi Hanina bar Chama, Vekaati Laha, et il est venu ici à Nerda pour étudier. La Gemara demande, comment se fait-il que Rav est arrivé à cette conclusion que celui qui est décédé c'est Rabbi Hafes et que Rabbi Hanina bar Chama a pris sa place, c'est pour cela que Lévi s'est retrouvé sans compagnon d'études? Peut-être que l'histoire était bien plus simple que ça. Vedilma nach nafshe de Rabbi Hanina. L'histoire est peut-être que c'est Rabbi Hanina qui est décédé, qui était le compagnon d'études de Lévi, et Rabbi Hafes est resté en place à la tête de l'étude. Et du coup, Lévi n'avait plus son compagnon d'études et il n'avait plus avec qui étudier. C'est pour cela qu'il est venu ici pour étudier. Comment se fait-il que Rav a décidé que celui qui était décédé, c'est plutôt Rabbi Hafez? L'Agmar répond, Imita de Rabbi Hanina Shachiv. Si c'était Rabbi Hanina qui était le compagnon d'étude de Lévi qui était décédé, Lévi le Rabbi Hafez, Mikaf avait caïflé. Lévi était prêt à s'incliner devant Rabbi Hafez qui était plus âgé que lui, et ce n'était pas du tout pour cela qu'il était assis à l'extérieur de l'étude, c'était seulement pour tenir compagnie à Rabbi Hanina bar Chama. Mais si Rabbi Hanina bar Chama était décédé, Lévi serait entré à l'étude pour participer à l'étude de Rabbi Hafez, et il n'aurait pas quitté Israël pour venir à Nerda. S'il a quitté, c'est sans doute que c'est Rabbi Hanina bar Chama qui a pris la tête de l'étude, et c'est pour cela que Lévi ne veut pas s'incliner devant lui, et ça lui a fait quitter Israël. Vetou est une raison de plus pour que Rav sache que celui qui est décédé est sans doute Rabbi Hafez et pas Rabbi Hanina bar Chama, sans avoir été nommé chef de l'étude, de Rabbi Hanina l'osagi de l'omalir, car il était impossible que Rabbi Hanina ne règne pas du tout. De Rihava kanicha nafshe de Rabbi, car avant que Rabbi ne soit décédé, Amar Hanina be Rabbi Chama yativ berosh, il a dit que Rabbi Hanina bar Chama serait à la tête de l'étude après sa mort. Uktivu betzadikim, vetigzor omer veyakom lach vegomer, et il est dit à propos des justes, ce que tu décréteras s'accomplira. Donc c'est sûr que Rabbi Hanina bar Chama devrait être à la tête de l'étude tôt ou tard, et c'est sûr que entre Rabbi Hafez et Rabbi Hanina bar Chama, c'était plutôt à choisir que c'est Rabbi Hafez qui est décédé, Rabbi Hanina bar Chama qui a pris la tête de l'étude, plutôt que de dire que c'est Rabbi Hanina bar Chama qui est décédé sans avoir pris la tête de l'étude. On revient à l'enseignement de Lévi, Darash Lévi ben Erda Klila Shari. Lévi a enseigné à Nerda qu'on a le droit de sortir avec un diadème pendant Shabbat. Nafik Esrin Varba Klile Mekula Nerda. Du coup, sont sorties 24 femmes avec des diadèmes de toute la ville de Nerda. Darash Rabba Baravua Bemechosa Klila Shari. Rabba Baravua a enseigné dans la ville de Mechosa qui étaient des gens très riches, qu'on a le droit de sortir avec un diadème pendant Shabbat. Venafkut manesre klile mechada mevoa. Et du coup sont sortis 18 diadèmes, c'est-à-dire 18 femmes avec des diadèmes d'une seule impasse. C'est dire qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui pouvaient se permettre d'avoir un diadème à Mechosa, puisqu'il y en avait presque autant d'une seule impasse que de tout Nerda. Amar Rav Yuda, Amar Rav Shmuel, Kamra Shari. Rav Yuda a dit au nom de Rav Shmuel qu'on a le droit de sortir avec une ceinture décorée dans la rue pendant Shabbat. Ika de Amrei de Arokta. Certains disent qu'il s'agit d'une ceinture décorée qui est une bande de tissu décorée d'or et de pierres précieuses. Vama Rav Safra Mide de Ave Atalit Muzevet. Et d'après cela, Rav Safra a dit que la raison pour laquelle c'est permis, c'est parce que c'est comparable à un châle ou une cape dorée qu'on a le droit de porter dans la rue pendant Shabbat. Il n'y a pas non plus de risque qu'on l'enlève pour montrer la ceinture, car c'est ce qui retient ses vêtements en place, et il ne risque pas de l'enlever dans la rue de peur que ses vêtements tombent. Vika de Amrei de Anisra. Et certains disent qu'il s'agit d'une ceinture décorée qui est en fait une plaque de métal précieux. Vama Rav Safra Mide de Ave Avnet Shel Melachim. Et d'après cette lecture-là, Rav Safra a dit que la raison pour laquelle c'est permis, c'est parce que c'est comparable à une ceinture de roi qui est une plaque de métal précieux. Et tous les enfants d'Israël sont comparables à des rois. Ils ont aussi le droit de porter une ceinture comme cela pendant Shabbat. Amarle Ravina le Ravashi. Ravina a demandé à Ravashi, Kamra ilui hemyana mai. A-t-on le droit de porter cette ceinture décorée par-dessus une ceinture ordinaire? Amarle tre emyane kaamrat. Ravashi lui a répondu, tu parles de porter deux ceintures l'une sur l'autre. C'est sûr que la ceinture qui est en trop est considérée comme une charge car c'est plus un vêtement et c'est interdit. Amar Ravashi, hairisuka. Ravashi a dit, un large bout de tissu qui entoure le corps, c'est-à-dire un corset, I itlei mefrach haïta shari, s'il a des rubans pour l'ajuster au corps, c'est permis car il n'y a pas de risque qu'il va tomber et qu'on va le porter dans la rue pendant Shabbat. Veilo asir, Et s'il n'y a pas de ruban pour l'ajuster au corps, on craint qu'il va tomber et qu'on va le porter dans la rue. C'est pourquoi c'est interdit. Nous avons vu dans la Mishnah, Velo Bekatla. Une femme ne peut pas sortir pendant Shabbat. On a traduit dans la Mishnah avec une bavette décorative. La Gemara demande Mai Katla. Que signifie ce mot Katla? La Gemara répond Mimketa Pahare. La première interprétation de Rashi est une bavette décorative ou littéralement un ramasse-miettes. La deuxième interprétation est un demi-cercle en or qui referme les pans de sa chemise en lui encerclant le cou. Nous avons vu dans la Mishnah Nezamim, une femme ne peut pas sortir avec des boucles pendant Shabbat. La Gemara explique Nizme Ha'af. Il s'agit des boucles de nez car on craint qu'elle ne les enlève pour montrer à une amie et qu'après elle les porte dans la rue, alors que les boucles d'oreilles sont permises car elle n'y a pas facilement accès à cause des bandes qui lui attachent les cheveux et par conséquent il n'y a pas de risque qu'elle ne les enlève pour les montrer à une amie et qu'après elle les porte dans la rue. Nous avons vu dans la Mishnah Velo Betabat Shen Alea Chotem. Une femme ne peut pas sortir pendant Shabbat avec une bague qui n'a pas de cachet, quoique c'est considéré comme un bijou. On n'a pas le droit de porter cette bague de crainte de l'enlever pour montrer à une amie. La Gemara déduit « Hayesh alea chotem chayevet ». On peut donc déduire de là que s'il y a un cachet à la bague, il y a carrément une obligation d'apporter un sacrifice de chatat si elle est sortie avec pendant Shabbat. En d'autres termes, c'est une interdiction de horaïta, car là c'est considéré comme une charge. Alma, l'aptarchit hu, c'est donc qu'une bague avec un cachet n'est pas considérée comme un bijou. Verominu, et on pose une question en opposant une Mishnah de Kelim dans laquelle il est dit « Tarchite nashim tmeim, les bijoux de femmes peuvent devenir impurs. Veluen tarchite nashim, voici qu'elles sont considérées des bijoux de femmes, katlaot, des bavettes décoratives ou des colliers, nezamim, des boucles d'oreilles, vetabaot et des bagues, vetabaot ben shiesh alea chotem ben shane alea chotem, et les bagues dites, c'est à la fois une bague qui a un cachet et une bague qui n'a pas de cachet. Venizme ha'av et les boucles de nez. On voit donc qu'il est dit dans cette Mishnah qu'une bague qui a un cachet est aussi considérée comme un bijou de femme. Là-dessus, la Gemara va donner trois réponses. La première réponse est « Ve'ama Rabizera lokashia ». Rabizera a dit « Ce n'est pas une question entre notre Mishnah qui considère une bague avec un cachet comme une charge pour une femme » et la Mishnah de Kelim qui considère une bague avec un cachet comme un bijou de femme. Ha Rabbi Nechemia, notre Mishnah qui considère une bague avec un cachet comme une charge pour une femme, suit l'avis de Rabbi Nechemia qui dit que l'essentiel de la bague est le cachet, et puisqu'un cachet est fait pour cacheter une lettre, ce qui n'est pas d'usure pour une femme, c'est considéré comme une charge pour une femme. Ha Rabbanan, alors que la Mishnah de Kelim qui considère une bague avec un cachet comme un bijou de femme, suit l'avis des Chachamim qui disent que l'essentiel d'une bague avec un cachet est l'anneau, et c'est pourquoi c'est un bijou de femme. Détania, comme nous avons appris dans une Tosefta, à propos d'une bague qui est faite de deux matériaux différents, la question est de savoir est-ce qu'elle peut devenir impure ou pas. Alors il est dit, « Hi shel materet vechotama shel almog » Si l'anneau est de métal et le cachet est fait de corail, qui est considéré comme du bois et qui ne peut pas devenir impur si c'est pas un récipient. Tmea, cette bague peut devenir impure puisque l'essentiel est l'anneau et l'anneau est fait de métal qui peut devenir impur même si c'est pas un récipient. Hishel almog vechotama shel materet, si au contraire l'anneau lui-même est de corail qui est considéré comme du bois et le cachet est de métal, tehora, la bague reste pure, elle ne peut pas devenir impure car c'est considéré comme un objet de bois puisque l'essentiel est l'anneau et il ne peut pas devenir impur puisque c'est pas un récipient. Rabbi Nechemia metame et Rabbi Nechemia rend impure une telle bague puisque d'après Rabbi Nechemia l'essentiel est le cachet puisque le cachet est de métal, toute la bague est considérée comme un objet métallique qui peut devenir impur même si c'est pas un récipient. Shaya Rabbi Nechemia omer betabat ala chacha chotama. Car Rabbi Nechemia disait qu'à propos d'une bague, il faut suivre le matériau du cachet. Beol, à propos d'un joug qui est une barre droite sur la nuque du bœuf, avec deux pieux des deux côtés de la nuque, halachacha samlonav, il faut suivre le matériau des pieux. S'ils sont de métal, le joug peut devenir impur, et si ils sont de bois, le joug ne devient pas impur.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.